France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir l'économiste Julia Cagé. Elle publie « Le prix de la démocratie » chez Fayard. Un gros livre qui a le mérite de nous ouvrir les yeux sur la façon dont est financé notre modèle démocratique. Pas très égalitaire et pas toujours très transparent, sans que nous en ayons forcément conscience. Alors ce soir, on va écouter Julia Cagé nous détailler les dessous de ce système et nous dire ce qu'elle suggère pour y remédier. Car notre invitée, qui est jeune, ne se contente pas d'observer et de commenter, elle a aussi envie de voir le monde bouger. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec à la une, bien sûr, la fiscalité sur les carburants. Fiscalité, un mot qui ne fait pas peur à notre invitée, et c'est tant mieux, car il n'y a pas plus instructif dans une démocratie que la façon dont les citoyens sont traités, justement, face à l'impôt. Au programme, à ce propos, un reportage sur le quotidien d'un artisan qui fait chaque jour des dizaines de kilomètres en Provence. Et puis pour terminer, comme tous les vendredis, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, un atelier philo pour les tout-petits. Succès garanti. À 19h20, au téléphone sonne, on s'interrogera sur notre dépendance à la voiture à la veille de la journée d'action des Gilets jaunes, qui protestent donc contre la hausse des taxes sur le carburant. Alors n'hésitez pas à nous appeler, surtout si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas vous passer de votre véhicule. Appelez-nous aussi si vous avez décidé de vous en passer. Le standard est ouvert 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Julia Cagé.
Bonsoir.
Et bienvenue sur France Inter. Vous êtes professeure d'économie à Sciences Po Paris. Vous publiez donc chez Fayard Le prix de la démocratie, plus de 400 pages. Un gros livre donc dans lequel il est question du financement de notre démocratie, des partis politiques, des campagnes électorales. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne parle jamais de ce sujet. Il défraye régulièrement la chronique, notamment judiciaire. Il y a eu des affaires célèbres. Très récemment, la très tonitruante perquisition dans les locaux de la France insoumise, mais vous, ce que vous avez souhaité faire, c'est un petit peu d'instruction civique, si j'ai bien compris, c'est-à-dire de nous expliquer la réalité des choses. Pourquoi dites-vous, Julia Cagé, qu'en France, plus on est pauvre, plus on paye pour participer à la démocratie ?
Parce qu'on a mis en place aujourd'hui en France un système de réduction fiscale qui est tel que quand les plus riches font un don à un parti politique, il ne paie qu'un tiers du coût. Donc aujourd'hui, si en France, vous êtes riche, vous donnez 7 500 € par an à un parti politique, le coût réel pour vous n'est que de 2 500 €. Et vous bénéficiez de 5 000 € de réduction d'impôt. C'est 5 000 € de réduction d'impôt qui les paie l'ensemble des citoyens français. Maintenant, vous faites partie de la moitié des Français les plus modestes, la moitié des citoyens français les plus modestes. Vous allez certainement pas donner 7 500 € par an à un parti politique parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup trop d'argent pour vous. Donc, imaginons que vous fassiez un don de 300 € par an. Quel est le coût réel pour vous ? 300 €. Quand vous êtes pauvre, vous payez plein pot, simplement parce que vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu.
Et vous ne pouvez pas avoir de réduction d'impôt, par principe, par définition.
Vous pourriez avoir un crédit d'impôt.
Mais c'est pas prévu.
Mais c'est pas prévu du tout. Pourquoi ? Parce que, en fait, aujourd'hui, massivement, ce sont les plus riches qui financent les partis politiques. Et une fois que les partis politiques sont au pouvoir, ils mettent en place une fiscalité qui est plus favorable aux plus riches. Ce livre, il fait de l'instruction civique. C'est vrai que j'essaie d'expliquer très concrètement comment se passent les choses. Ce livre, il se veut aussi un pavé dans la mare pour montrer qu'il y a une capture aujourd'hui du financement de la démocratie par les intérêts privés et qu'il faut y mettre fin. Ça me paraît urgent d'y mettre fin, notamment quand on voit la montée des mouvements populistes qui s'alimentent finalement de cette capture.
Parce que l'argent, c'est quand même important quand on veut faire de la politique. Vous le dites clairement, la démocratie, c'est à qui paye, gagne.
Bah, ça devrait pas l'être. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. La démocratie, ça a un coût. Ça, il faut en être conscient. Ça a un coût de faire vivre des mouvements politiques, ça a un coût de faire des campagnes électorales. Ensuite, ce coût, il y a différents moyens de le prendre en charge. On pourrait avoir un système de financement public complètement égalitaire de la démocratie. Dans ce cas-là, et c'est ce que je propose dans mon livre, on a un système égal avec un citoyen, un homme, égal une voix.
On en reparlera de vos propositions,
c'est pas ce qu'on a fait.
Oui.
On a un système aujourd'hui qui est financé majoritairement par les intérêts privés, avec les plus riches qui financent les partis et qui en plus, pour ça, sont subventionnés par l'État. Et du coup, en fait, finalement, les plus riches ont plus de voix dans les faits que les Français les plus modestes. Et c'est un impact très concret. Pourquoi ? Parce qu'une des choses que j'ai montrées dans le cadre de mes recherches et dans le cadre de ce livre, c'est qu'en moyenne, plus un candidat dépense lors d'une élection, plus il a de chances de l'emporter. Ce qui veut dire qu'en fait, les candidats partent à la chasse au chèque, partent à la chasse au financement privé, et ça leur donne un avantage, y compris dans les urnes.
Plus on a d'argent, plus on gagne. C'est pas toujours vrai, Julia Cagé. Je me permets juste d'ouvrir cette parenthèse. Vous avez été conseillère économique de Benoît Hamon lors de la dernière présidentielle. On peut pas dire que
ça a été très proportionnel aux dépenses engagées.
Hein.
Non, c'est une régularité statistique. Ensuite, on peut faire l'histoire de chaque élection et ça serait intéressant de le faire. Il s'est passé quelque chose en 2017 de très particulier avec notamment l'affaire Fillon. Du coup, l'émergence du candidat Macron, ça a été un moment aussi important pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ça vaut pas le coup finalement de regarder les élections une par une parce qu'on va toujours trouver des fois où ça marche pas. Ce qui est intéressant, c'est la régularité statistique. Ce qui est intéressant, c'est de voir, pas seulement pour l'élection présidentielle, pour les élections législatives, pour les élections municipales, à chaque fois qu'on vote pour notre maire, en moyenne, statistiquement, plus un candidat dépense, plus il a de chances de l'emporter. Or, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde les données? C'est que les partis les plus à droite économiquement, les partis les plus conservateurs, reçoivent beaucoup plus de financement privé en moyenne que les partis marqués plus à gauche. Donc ça donne un véritable avantage à ces partis conservateurs. Et encore une fois, c'est non seulement acquis et gagne, mais on est rentré dans un jeu où les plus pauvres non seulement souffrent de ça, parce qu'ils sont moins entendus, ils sont moins bien représentés, mais en plus le financent, sans le savoir. Et avec ce livre, je vais leur faire réaliser en fait que c'est une des choses qui est en train de se passer et qu'il faudrait y mettre fin.
Alors vous prenez évidemment aussi l'exemple d'Emmanuel Macron en 2017 qui évidemment n'avait pas de parti, pas de financement public par définition en 2017, mais il a joué justement sur ses dons, sur ses donateurs, 30 000 donateurs, mais 2% d'entre eux qui ont fourni 40 à 60% des dons qui ont été touchés par La République En Marche.
Oui, La République En Marche a été capable de lever énormément d'argent extrêmement rapidement. Le parti a levé quasiment 5 millions d'euros simplement en 2016, en quelques mois d'existence. Et ensuite, Emmanuel Macron a encore levé plusieurs millions d'euros pour sa campagne présidentielle. Quand on regarde la structure des dons qui ont été faits, on n'est quasiment que sur des dons de 7 500 euros. C'est-à-dire des dons qui étaient au plafond du don. Vous ne pouvez pas donner en France aujourd'hui plus de 7 500 euros à un parti, 4 600 euros pour une campagne électorale. Et donc, en fait, on a une poignée de tout petits donateurs qui ont financé quasiment exclusivement la campagne d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il l'a mis en scène auprès de qui il est allé faire campagne pendant les premiers mois. Il est allé à Londres, il est allé à New York, il a organisé des dîners. Et la place à table avec Emmanuel Macron, ça vaut 7 500 euros. Le problème, c'est que ça a des conséquences très concrètes. Et ça a eu des conséquences notamment en termes des politiques économiques qui ont été mises en œuvre par Emmanuel Macron dès son arrivée au pouvoir.
Vous pensez-vous qu'il y a eu renvoi d'ascenseur très clairement à ce niveau-là?
Ah, il y a eu renvoi d'ascenseur. Moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre les premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron si on ne regarde pas comment il a financé son mouvement et comment il a financé sa campagne. Les premières mesures d'Emmanuel Macron, ça a été la suppression de l'impôt sur la fortune et la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique sur le capital à 30%, ce qui veut dire qu'on a supprimé la progressivité de l'impôt sur le capital. Ces deux mesures ensemble, elles sont estimées environ à un coût de 7 à 8 milliards d'euros par an. Et depuis 2017, qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois qu'on discute de la revalorisation des prestations sociales ou du fait d'introduire un chèque carburant, par exemple, pour les gens qui n'ont plus les moyens d'aller travailler? Qu'est-ce qu'on nous dit? On n'a plus d'argent. Bien sûr qu'on n'a plus d'argent, puisqu'il a vidé les caisses pour faire plaisir à ses donateurs.
Merci Julia Cagé, vous faites l'introduction du mix de l'actualité qui arrive à présent, comme toutes les semaines, mix mis en onde par Marie-Annick Rimbaud. La question fiscale, évidemment, n'est jamais loin. C'est d'ailleurs contre l'augmentation des taxes sur les carburants que les Gilets jaunes appellent à la mobilisation demain dans toute la France.
Des fois, je me dis, je vais faire quoi? Je suis pas terroriste, rien, mais je me dis, je vais aller prendre un gilet jaune avec Macron et je vais me faire péter.
Est-ce que vous voulez aller voir ce que ça donne concrètement sur le terrain et commencer tout de suite votre blocage pour voir?
À samedi, voilà le cri de ralliement de ces gilets jaunes de Vendée. Pour demain, des blocages sont annoncés un peu partout par les organisateurs de ce mouvement que certains politiques voient d'un très bon œil.
Je vous invite, le mouvement des gilets jaunes, à être le plus nombreux possible, quelle que soit votre opinion politique.
Nicolas Dupont-Aignan ne quitte plus son gilet jaune. Même couleur, même tendance pour Laurent Wauquiez qui pour une fois ne sera pas en rouge.
Je serai aux côtés de la manifestation. J'ai pas l'habitude de me dérober.
L'exécutif, lui, semble pris de court par cet insaisissable mouvement parti de la base. Alors le président Macron s'invite sur le plateau de TF1, installé le temps d'un 20h sur le porte-avions Charles de Gaulle, avec en arrière-plan un avion de combat à chacun ses armes.
Moi j'entends la colère et je pense que c'est un droit fondamental dans notre société de pouvoir l'exprimer.
Mais en même temps...
Ensuite, je dis méfiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ce mouvement.
Ce qui donne dans la bouche du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.
Les mêmes qui, il y a 2 mois, la larme à l'œil, pleuraient Nicolas Hulot, sont prêts à aller défiler le 17 novembre en compagnie de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan.
Il y aura effectivement demain des insoumis sur les barrages, car on n'apprend pas à la gauche de la gauche ce qu'est un rapport de force, surtout lorsqu'il est question du pouvoir d'achat.
Ce premier petit recul, c'est une prime à la mobilisation, ça montre que ça sert à quelque chose de se mobiliser.
Le député insoumis Éric Coquerel est resté sur sa faim après les mesures annoncées en urgence par Édouard Philippe, des mesures qui n'ont pas convaincu non plus Pierre Chasseret, le représentant de 40 millions d'automobilistes.
On est en train de mettre en place une véritable usine à gaz, avec des mesures par-dessus des mesures. Baissons tout simplement les taxes.
Non, on ne va pas annuler la taxe carbone. C'est un des moyens de lutter contre le réchauffement climatique.
Édouard Philippe, qui a été à bonne école avec Alain Juppé, restera donc droit dans ses bottes. Attention, lui dit Dominique de Villepin, qui s'y connaît lui aussi en matière de reculade sur fond de contestation.
Emmanuel Macron n'évitera pas un aggiornamento.
Comprenez, une remise à plat de sa politique.
Il faut être capable de se faire mal et faire mal à sa politique.
Ce jour de fête, bloquer toutes les voies. Rendez-vous le 17 pour exprimer tout ça. Y a pas que le ballon rond qui fédère, tu vois. Juste dire au patron.
Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement le week-end dernier à Paris pour le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Parmi eux, Donald Trump qui s'en est pris à Emmanuel Macron sur Twitter à peine rentré chez lui. Mais pour une fois, en France, la classe politique fait bloc, à l'image du député RN Gilbert Collard.
J'ai envie de dire à Donald, bois ton coca, fais tes tweets et laisse-nous faire notre bon vin.
Donald Trump qui a eu droit à une action des Femmes dimanche sur les Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'en fait pas toute une affaire.
Effectivement, le président des États-Unis, s'il s'est retourné dans sa voiture, a pu voir une femme avec les seins nus. Ça n'est pas une arme de destruction massive, sauf peut-être pour Adam et Ève.
On termine comme on avait commencé avec une histoire d'impôt, mais là c'est pour saluer N'Golo Kanté, car comme l'a révélé Mediapart, le footballeur a refusé un arrangement de son club de Chelsea pour toucher une partie de ses revenus dans un paradis fiscal. Pas surprenant, dit de lui Blaise Matuidi.
N'Golo fait tout bien en fait. Quand vous me parlez d'N'Golo, je suis pas surpris. Tout est parfait.
N'Golo Kanté, pa la 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 la. N'Golo Kanté, pa la 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 la.
Voilà pour ce mix de l'actualité signé Marie-Annick Rimbaud. Une semaine en France, toujours en compagnie de Julia Cagé. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les paradis fiscaux, Julia Cagé. En tout cas, on voit que la question de la fiscalité, elle pose clairement la question de l'égalité des citoyens et celle des choix démocratiques. Sur la question des gilets jaunes, l'exécutif a dit qu'il ne reviendrait pas sur sa décision d'augmenter la taxe carbone. Il a tort ou il a raison ?
Là où l'exécutif a tort, c'est de laisser le pouvoir d'achat des plus modestes diminuer. Cette année, comme l'an prochain, le pouvoir d'achat de la très grande majorité des Français va baisser, alors que le pouvoir d'achat des 1% les plus riches va augmenter de 6%. Et le pouvoir d'achat des 0,1% des Français les plus riches, lui, va augmenter de plus de 10%. Donc pour la très large majorité des Français, le pouvoir d'achat baisse, et pour une extrême minorité de plus favorisés, il augmente encore davantage. Ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi. Alors pour les plus riches, on sait pourquoi ça augmente, puisqu'on taxe moins le capital, on a supprimé l'impôt sur la fortune. Ensuite, sur les plus modestes, qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement depuis son arrivée au pouvoir ? 1. Il a diminué les allocations logement. 2. Il n'a pas revu à la hausse les prestations sociales. Ce qui veut dire qu'en fait, les prestations sociales, en termes réels, ont diminué. 3. Il a augmenté la fiscalité sur le tabac. 4. Il a augmenté la fiscalité sur l'énergie. La question, c'est pas, ça c'est hypocrite de dire, de savoir, est-ce que c'est la taxe carbone, pas la taxe carbone, on peut pas pleurer Nicolas Hulot et vouloir ne pas taxer l'énergie. Bien sûr que tout le monde veut qu'on taxe davantage, d'une certaine manière, l'énergie. Mais c'est pas sur l'énergie qu'il y a la cristallisation, c'est sur la baisse du pouvoir d'achat. Donc si par exemple ce gouvernement avait une fiscalité qui était plus progressive, si par exemple il l'augmentait, les allocations logement, si par exemple il revoyait à la hausse les prestations sociales, si par exemple il faisait simplement en sorte que le pouvoir d'achat des plus modestes augmente. On va même pas demander 6% par an comme pour les 1% les plus riches, mais peut-être 1 ou 2% par an, alors il n'y aurait pas cette cristallisation autour de la fiscalité énergie. Et là où je pense qu'Emmanuel Macron va finir par aller dans le mur, je crois qu'il ne se rend pas compte de ce qu'est la réalité aujourd'hui de la vie des Français. Il ne s'en rend pas compte. On l'a vu très clairement pendant son tour de France d'une semaine où il avait l'air surpris à chaque fois que les gens se plaignaient. Mais les gens ne se plaignent pas simplement parce que les Français seraient mécontents, mais parce qu'ils ne s'en sortent plus. Et le fait qu'ils ne s'en sortent plus, ce n'est pas la faute à pas de chance, c'est le résultat concret des politiques économiques et fiscales mises en œuvre depuis un an et demi par le gouvernement d'Édouard Philippe.
Alors on va entendre justement maintenant un artisan du sud-est de la France, il s'appelle Pascal, il est frigoriste, il est installé à la limite du Var et des Bouches-du-Rhône. Son véhicule, c'est son outil de travail, le carburant, pour lui, c'est le cauchemar. Demain, il participera au mouvement des Gilets jaunes, c'est un reportage de Delphine Evenou.
Toutes les journées de Pascal commencent par ce bruit de porte, celui de son fourgon, un diesel acheté il y a 3 ans pour son activité. Il installe climatisation, pompe à chaleur et système solaire.
Là, on va partir de Saint-Julien, donc dans le Var, pour aller sur Aubagne, Bouches-du-Rhône. Et on va d'abord passer chez des fournisseurs, parce que j'ai du matériel à récupérer. Voilà, on sort du hameau. Et le dilemme, la question tous les jours, c'est est-ce que je pars à gauche par Vinon-sur-Verdon pour aller prendre l'autoroute? Je vais avoir du péage plus du gasoil en plus. Ou est-ce que je prends la petite route en tournant à droite et là je vais avoir 12 km de moins, un quart d'heure de plus. Voilà. L'autoroute, c'est 10 euros de plus parce que c'est 8 et quelques euros de péage plus un litre de gasoil en plus.
Des kilomètres, ce quinquagénaire en mange 3000 par mois pour le travail, autant pour sa vie privée. Sa compagne habite à Limoges. Cela représente 120 euros mensuels de plus à sortir depuis quelques mois.
Ce que je dépense en carburant par mois, c'est énorme dans mes revenus. C'est plus de 20% de mes revenus. Donc c'est pas dérisoire. Allez demander à un francilien ou à un parisien de dépenser 20% de ses revenus dans du transport.
Après plus d'une heure de route, entre Saint-Julien et Aubagne, arrivé chez un de ses premiers fournisseurs. Isabelle est l'une des salariées.
Je m'aperçois que petit à petit, on demande toujours aux salariés ou à tout le monde de faire des efforts. Donc on en fait, je me suis rapprochée. J'habite plus à Bandol, j'habite à La Ciotat pour avoir moins de frais. En ayant avant 3 pleins par semaine, je pouvais me permettre encore d'aller manger au restaurant une fois par semaine. Je m'aperçois que je me suis rapprochée justement pour augmenter mon pouvoir d'achat. Et au final, même si je me suis rapprochée, les restos, je peux plus en faire. Le carburant, c'est la goutte de pétrole qui fait déborder le vase.
Pascal, le frigoriste, traverse la route chez un deuxième fournisseur.
Ouais, mais lui, j'en ai besoin demain.
Ici, même colère, Stéphane s'agace à chaque plein.
Pourquoi vous ne venez pas en transport en commun?
Ici, c'est très mal desservi. De Marseille à venir à Aubagne, c'est très compliqué, quoi. Il faut prendre soit le train, soit le bus, mais c'est pas pratique, quoi. Il y en a toutes les demi-heures, voire toutes les heures, quoi. Donc c'est impossible de venir travailler comme ça, quoi.
À bientôt.
Est-ce que vous pensez un peu à la planète, Pascal?
Ben oui, j'y pense à la planète. C'est un petit peu le cœur de mon métier au départ quand j'ai choisi ça. On nous propose de rouler avec des énergies électriques, soi-disant propres, qui sont absolument pas propres parce que fabriquer une batterie, c'est extrêmement dégueulasse. C'est des métaux rares, c'est des terres rares, c'est de l'acide. Ça pollue énormément. Mais bon, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va nous dire, maintenant vous avez tous des voitures électriques, il faut payer une taxe pour recycler vos batteries parce que ça pollue. On va nous sortir ça dans 15-20 ans.
Quant à l'hybride, impossible, il n'y a pas de modèle d'utilitaire adapté à son activité. En attendant une solution écologique, Pascal aimerait au moins une taxe carburant différenciée selon les territoires. À l'approche du 17 novembre, lui qui suivait de loin le mouvement des Gilets jaunes a finalement l'intention d'y participer.
Vous le comprenez, cet artisan, Julia Cagé? Faut pas le culpabiliser sur la question environnementale.
Oui, c'est ça que je trouve le plus horrible d'une certaine manière, c'est de culpabiliser les Français qui veulent juste aller travailler et qui ne s'en sortent plus. Et finalement, on les montre du doigt et on leur dit « Ah, regardez, là, vous voulez en fait que le réchauffement climatique continue, que la planète soit davantage polluée, vous voulez pas contribuer à l'effort collectif ?» Mais il contribue à l'effort collectif, mais il faut quand même qu'il puisse aller travailler. Donc ça, je trouve ça extrêmement problématique, cette manière dont ce gouvernement, qui est quand même essentiellement un gouvernement de Parisiens, d'élite, qu'on appellerait de bobos, finalement, montre du doigt c'est toutes ces individus qui vivent dans des territoires ruraux où ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de prendre leur voiture.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, effectivement, c'est que vous expliquez le fonctionnement fiscal français, enfin une partie de ce fonctionnement, et on apprend des tas de choses dans ce livre, page 151 notamment. Il y a un petit chapitre sur Muriel Pénicaud, notre ministre du travail. Vous allez nous expliquer ça. Elle a une passion pour la photo, Muriel Pénicaud, et elle connaît bien le code du travail. Elle connaît bien le droit fiscal aussi.
Oui, bah Muriel Pénicaud, elle a une passion pour la photo et apparemment elle a également une passion pour les fondations d'art. Le problème, c'est que Muriel Pénicaud a créé une fondation d'art à laquelle elle a fait des dons. Ces dons, elle les a défiscalisés à hauteur des deux tiers, c'est-à-dire quand elle a donné 1 million d'euros finalement à cette fondation d'art, elle a repris 600 000 euros. Donc en fait, elle a payé 600 000 euros d'impôts en moins, ça lui a coûté pas très cher. Et le problème, c'est que cette fondation d'art ne sert plus ou moins qu'à financer l'exposition des œuvres de Muriel Pénicaud. Et ça, c'est quand même vraiment important de le dire, parce que au-delà du financement de la démocratie comme financement des partis politiques, on a mis en place en France, ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, un système extrêmement compliqué qui permet finalement aux plus riches qui financent des fondations. Mais ça veut dire quoi, financer des fondations? Très souvent, ça veut dire essentiellement financer ses propres préférences artistiques, par exemple, de le faire aux frais de la collectivité.
Les sommes sont impressionnantes hein, concernant Muriel Pénicaud. Oh oui. Ce que vous dites, elle a versé 670 000 euros et ça lui a permis d'économiser 442 000 euros d'impôts.
Oui, c'est tout à fait légal. D'ailleurs, c'est ça le problème. Moi, je trouve ça profondément immoral. Il faut le dénoncer. Je pense qu'il faut y mettre fin. Mais c'est légal. Et le problème, c'est que c'est légal. Et pourquoi c'est légal? Et finalement, personne n'en parle, parce que toutes ces choses-là, ça passe sous la table. Les Français ont l'impression que c'est un peu trop complexe comme question pour vraiment se les approprier. Et moi, je leur dis non, c'est pas trop complexe. Et c'est votre argent qui est utilisé pour ça. Je voudrais juste dire un mot pour faire un point de comparaison. La discussion qu'on a aujourd'hui sur la question de la fiscalité énergie, c'est de dire qu'on va donner à chaque Français, chaque mois, un chèque de 20 euros. Ça fait 240 euros par an. Et on se demande si ces 240 euros par an, pour les plus modestes qui veulent aller travailler, ça ne serait pas trop. Combien l'État dépense aujourd'hui, chaque année, en déduction d'impôts qui ne bénéficient qu'aux 0,01% des Français les plus riches qui donnent aux partis politiques? 3 900 euros. Donc aujourd'hui, vous faites partie des 0,01% des Français aux revenus les plus riches, vous faites un don à un parti politique. Chaque année, l'État vous donne en moyenne 3 900 euros. Et ça choque personne. Les montants sont quand même d'une autre nature.
Ça choque personne parce que les gens n'ont pas forcément ces chiffres-là en tête.
Maintenant, le téléphone va sonner.
Ceux qui ont des conseillers fiscaux, effectivement, sont ceux qui peuvent peut-être bénéficier de ce système. Dans ce livre, Julia Cagé, vous faites des propositions concernant le financement de la démocratie. Vous proposez qu'on affecte 7 euros par citoyen au financement de la démocratie. 7 euros par an, si j'ai bien compris, que chacun serait libre de donner au parti de son choix et faire ce choix qui se ferait sur la feuille d'impôt.
Oui, il s'agit de remettre à plat complètement le financement public actuel de la démocratie avec ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique.
Les BED.
Qui viendraient, les BED, on les met au lit, qui viendraient pour commencer remplacer le système de réduction fiscale actuel auquel on mettrait fin. Donc ça consiste à quoi? En quoi les BED? Ça consiste en la possibilité donnée à chaque Français chaque année d'allouer 7 euros d'argent public. Donc là, c'est un financement égalitaire, c'est 7 euros pour tous les Français, peu importe leur revenu, peu importe leur patrimoine, au mouvement politique de leur choix. Ça a deux avantages par rapport au système actuel. Le premier, par rapport aux réductions fiscales, c'est que ça permet un financement égalitaire. Il n'y a vraiment aucune raison, bien au contraire, qu'on dépense plus d'argent public pour satisfaire les préférences politiques des plus riches que celles de l'ensemble des citoyens. Le deuxième avantage des bons pour l'égalité démocratique, c'est que c'est un système fondamentalement dynamique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le financement public direct des partis politiques en France, il est figé par intervalle de 5 ans. En fait, pour avoir un financement public, il faut avoir obtenu de bons résultats électoraux aux dernières élections législatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est extrêmement difficile pour un mouvement politique d'émerger entre deux élections. À moins d'être en marche, c'est-à-dire d'aller chercher dès le départ des financements privés conséquents, ce qui va influencer ensuite les politiques que vous allez mettre en œuvre. Mais Nuit Debout, par exemple, n'a pas réussi à se former comme mouvement politique entre deux élections. C'est un système qui est dépassé, je pense que c'est un système du XXe siècle. Aujourd'hui, la vie politique, elle est en mouvement, on voit des nouvelles forces émerger en permanence, notamment grâce aux réseaux sociaux, mais pas uniquement. Il faut permettre assez fort ceux-là de pouvoir être financés. Et encore une fois, il faut leur permettre d'être financés de manière égalitaire avec de l'argent public. C'est ça le nerf de la guerre. Parce que si ce
n'est
pas financé
par de l'argent public, pour éviter les dérives du genre des États-Unis,
on a une capture par de l'argent privé. Pour éviter les dérives aux États-Unis où là on n'a absolument aucun plafond, aucune régulation, mais encore une fois, pour éviter également les dérives que l'on voit aujourd'hui en France.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche dedans, la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil, faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da Gino de Paris. Cê torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, e cair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Gaël Faye, balade brésilienne sur France Inter, un choix musical signé Djoubaka.
France Inter, 18-20, Claire Servageant.
Une semaine en France, toujours en compagnie de l'économiste Julia Cagé. Un petit mot de votre parcours personnel, Julia Cagé. Vous êtes jeune, très jeune, ben oui, vous n'avez même pas 35 ans. Vous avez grandi à Marseille, alors vous ne venez pas des grands lycées parisiens, mais ça ne vous a pas empêché d'effectuer un parcours d'excellence, puisque vous êtes passé par Normal Sup, la crème de la crème. Et le mieux, c'est que vous êtes deux à l'avoir réussi dans la famille, vous et votre sœur jumelle Agathe. Tout ça en même temps, inséparable à un tel niveau d'excellence, c'est exceptionnel.
On a eu un peu de chance et on a travaillé ensemble, ce qui nous a beaucoup aidé. On a fait nos classes préparatoires ensemble. Après, nos parcours ont un peu divergé une fois qu'on est rentré.
Et modeste avec ça. Vous, ensuite, vous avez poursuivi vos études aux États-Unis à Harvard. Votre sœur, elle a fait l'ENA. Vous vous êtes retrouvées toutes les deux dans le staff de Benoît Hamon lors de la dernière présidentielle avec la sociologue Dominique Méda, avec l'économiste Thomas Piketty également, qui est votre mari à la ville, on peut le dire. J'imagine, chez vous, ça doit être quelque chose quand vous refaites le monde tous les deux. Il y a des oreilles qui doivent siffler quand même, hein?
Non, bah, on essaie toujours d'être assez raisonnable et raisonné et juste dans nos critiques. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup à critiquer.
Votre engagement politique, sinon, avec Benoît Hamon, c'est terminé pour l'instant avec Génération ?
Oui, pour moi, je vois plutôt l'engagement intellectuel comme un engagement qui va se faire autour de causes, autour de mouvements ou à des moments précis du temps. Donc là, il y avait une élection présidentielle où clairement Benoît Hamon était pour moi le meilleur candidat et de loin. Il y avait plusieurs risques. Déjà, j'avais très peur de François Fillon. Quand je me suis engagée avec Benoît Hamon, François Fillon était encore loin de l'affaire Pénélope. Il y avait aussi quand même le risque du Front National qui reste non négligeable. Et j'avais envie d'accompagner ce candidat pendant la campagne. Et c'est pour ça que j'ai été sa conseillère économique. Ensuite, pour moi, c'est vraiment un temps de campagne. Parce que je ne peux pas à la fois faire des recherches, écrire des livres et faire de la politique. Les deux simultanément, c'est pas possible. Donc j'ai eu cet engagement. J'aurai sans aucun doute d'autres engagements dans le futur, mais je pense que ma valeur ajoutée, on va dire, n'est pas sur le terrain comme femme politique, mais plus comme chercheur, comme intellectuel engagé. Et ensuite aussi, l'idée, ce livre, pour le coup, je l'ai envoyé à Benoît Hamon, pas seulement à Benoît Hamon, à Olivier Faure, à Jean-Luc Mélenchon, à Yann Brossa, pour en discuter. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bout de programme dans le livre. On pourrait presque le reprendre par partie tel quel. Et ça, c'est là où je pense que c'est la valeur ajoutée de l'intellectuel. Prenons les bons pour l'égalité démocratique. Les bons pour l'égalité démocratique, c'est pas une idée que j'ai eue un matin en me levant. J'ai eu cette idée parce que j'ai étudié sur plus de 50 ans le fonctionnement des financements privés et publics de la démocratie dans une quinzaine de pays dans le monde. Et en regardant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en tirant les leçons de ces différentes expériences, j'ai essayé de trouver le modèle idéal. Et ça, l'intellectuel peut le faire parce qu'on a le temps de la recherche, c'est notre privilège. L'homme politique ne peut pas le faire parce que finalement, il doit décider toujours très rapidement. Et donc, c'est avec ça que j'essaie de mettre ma pierre, ma contribution au débat. Et si ça peut être approprié par un certain nombre de partis dès les élections européennes, ça serait une excellente chose.
Alors, parmi vos propositions, Julia Cagé, au-delà du financement de la démocratie, il y a des propositions concrètes, notamment pour une meilleure représentativité de la population, pour faire entrer les classes populaires à l'Assemblée nationale, où elles sont quand même particulièrement absentes. Vous proposez de réserver un tiers des sièges à des députés élus à la proportionnelle sur des listes qui comprendraient au moins une moitié de candidats ouvriers, employés ou précarisés.
Oui, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Au départ, c'était vraiment en partant du constat de la crise de la représentation. Et je pense que la question du financement explique en grande partie ce déficit de représentation, puisque les femmes et les hommes politiques ne vont plus écouter la majorité ou les classes populaires, mais simplement ceux auprès de qui ils se financent. Ensuite, ce déficit de représentation, il est trop important malheureusement, je crois, aujourd'hui, pour être résolu par la seule question du financement. Ça aidera beaucoup, mais c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que si vous regardez aujourd'hui, par exemple, l'Assemblée nationale en France, on a le nombre extraordinaire de 0 députés ouvriers. Il n'y en a pas un seul, il y en a 0. Et si vous regardez les ouvriers plus les employés, on est en dessous de 5%. Les ouvriers, les employés, les classes populaires aujourd'hui en France, c'est plus de 50% de la population active. Et donc, il faut améliorer leur représentation à l'Assemblée nationale, sachant que ça aura des conséquences très concrètes et très directes sur les lois qui seront votées et sur les textes qui seront discutés. Qu'est-ce que je dis dans le livre ? C'est que ça va pas se faire tout seul, ça va certainement pas se faire d'un claquement de doigts. On a utilisé pour remédier au déficit de représentation des femmes, finalement, les outils de l'état de droit, avec la parité entre hommes et femmes qu'on a imposée sur un certain nombre de listes, et ben je dis, faisons la même chose, utilisons les outils de l'état de droit et élisons un tiers de nos représentants sur des listes à la proportionnelle avec une parité sociale, au moins une moitié d'ouvriers et d'employés. On verra que ça marchera très bien. Et moi, je pense aussi que ça réconciliera une grande partie des Français avec la politique.
Voilà. Et pour former de bons citoyens, Julia Cagé, il faut sans doute commencer très tôt par développer le sens critique des enfants. Et c'est ce qui nous conduit à présent aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Vous êtes intéressée à une tendance qui prend de l'ampleur, la philosophie pour les enfants, y compris les tout petits, puisqu'on propose maintenant de la philo dès 5 ans.
Et à 5 ans, on est très très loin de la terminale. On est en maternelle, il n'empêche. De plus en plus d'ateliers philo fleurissent un petit peu partout. exclusivement réservé aux 5-10 ans. Alors ce n'est pas nouveau, mais en ce moment, ça cartonne.
Alors quand vous dites philo, j'imagine qu'on ne leur apprend pas Kant ou Descartes.
Ah, évidemment, la Carabane par exemple, qui en organise une quinzaine par mois en région parisienne, parle plutôt d'éveil à la philosophie, apprendre aux pitchouns à réfléchir, à raisonner, se questionner, à se forger une opinion et bien sûr, respecter celle de son petit voisin.
Alors ça leur plaît vraiment ou il y a les parents derrière ?
Ils adorent ça. Les parents les inscrivent. Évidemment, ce n'est pas un gamin de 6 ans qui va dire à sa mère un matin « Maman, j'ai envie de faire de la philo ». Maintenant, une fois qu'ils ont testé, ils en redemandent et c'est ça le plus marrant, quitter sa poupée ou sa console pour venir débattre du bonheur, de la peur, de la colère ou de la liberté. Moi, je trouve ça carrément génial.
Alors, les ateliers de la Carabane commencent toujours par quelques minutes de méditation pour se calmer et c'est parti. Ce jour-là, 8 petits philosophes, dont 2 bouts de chou de 5 ans, Simon et Augustin, en moyenne section de maternelle.
Ils sont assis par terre, en rond, sur un tapis. Ce qui frappe dès l'arrivée, c'est la banane qu'ils affichent tous, rien qu'à l'idée de philosopher.
La philo, c'est qu'on apprend des choses.
La philo, c'est une question que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie.
Exemple ?
Qui je suis ? Pourquoi je suis là en ce moment ?
Mon thème préféré, c'est le jardin intérieur.
Mais qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent « Mais enfin, la philo, c'est pour les grands ».
Bah non, la philo, c'est pour les grands, ça veut rien dire. C'est comme on dit « La danse est pour les filles », ça veut rien dire. On est capable d'en faire. Bah oui, on est capable de réfléchir.
Alors, on va travailler sur « Qu'est-ce que c'est un ami ?»
Estelle Roulin, la fondatrice de la Carabane, commence toujours comme ça. Elle lance un thème et elle laisse faire.
On aborde des sujets hyper concrets pour eux. Qu'est-ce que grandir ? À quoi ça sert d'aller à l'école ? Pourquoi est-ce qu'on est jaloux ? Et de temps en temps, eux, ils décollent complètement et ils ont envie, par exemple, de traiter « Pourquoi y a-t-il quelque chose et pas rien ?» Quand ils m'ont proposé ce thème-là, moi j'étais sur les genoux. En fait, à chaque fois que je fais un atelier, il y a une réflexion qui me colle au tapis. Il y a une petite fille qui avait dit « Personne n'a le droit de m'interdire de rêver ». Je trouve que ça, c'est d'une beauté incroyable.
Quel âge ?
7 ans. Une petite Alma qui a dit un jour « Non mais la naissance, ça fait hyper peur !» Je lui dis « Mais pourquoi ça fait peur la naissance ?» Ben, ça fait peur parce que quand t'arrives, tu connais personne.
Allez, encore une autre.
Il y a un petit garçon qui nous a dit « Bah en fait, les enfants, ils sont beaucoup plus libres que les adultes. » Quand je lui demande pourquoi, il dit « Bah parce que les enfants, ils ont le temps de penser. » Un autre atelier où on travaillait sur « Qu'est-ce que grandir ?» Une petite fille nous répondait « Grandir, bah, c'est comme les arbres, tu pousses et puis après, bah, t'as des racines. » Et ça, pour des ateliers de philo, c'est magique d'entendre ça. Qui veut prendre la parole ?
C'était quoi déjà la question ?
Qu'est-ce que c'est un ami ?
Un ami, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Il peut des fois avoir des disputes entre amis.
Emma ?
Un ami, c'est quelqu'un qu'on lui fait confiance.
Est-ce qu'on est obligé de se ressembler quand on est ami ?
On peut être pareil, soit on peut être un peu pas pareil. Je suis d'accord avec Augustin.
Ça va durer une demi-heure et ils adorent ça.
Bah c'est que là, personne n'a tort.
Pourquoi ?
Bah parce qu'à l'école, tu vois, tu oublies de mettre un point. Allez, 2 points en moins. À la philo, nous ne sommes pas punis. Il n'y a aucune faute et ça, j'aime bien.
Ça veut dire quoi, il n'y a aucune faute ?
C'est-à-dire que chacun pense ce qu'il veut.
Je t'en fiche que ton voisin ou ta voisine pense différent ?
C'est bien qu'ils pensent différemment.
Tolérance, esprit critique, voilà ce que veut développer la Carabane.
Par exemple, le fait qu'ils ne prennent pas tout pour argent comptant. Quand on travaille sur un thème et qu'on leur dit « Ah bah tu sais, Rousseau aussi, il a pensé la même chose que toi, c'était un philosophe », ils nous disent « Ah bon, mais t'es sûr que c'était un philosophe ?» Ils remettent tout en question. Développer son sens critique, quand on voit ce qui se passe sur Facebook, etc. Moi, mes enfants sont encore trop jeunes pour l'instant, mais j'entends des histoires qui font tellement froid dans le dos que je me dis que plus les enfants vont être capables de se poser des questions sur tout, ils vont pas gober n'importe quoi.
Alors, vous dites ils vous scotchent, est-ce qu'ils scotchent aussi les parents ?
Les parents, ils sont complètement scotchés.
Justement, voilà la maman de Juliette.
Leur capacité déjà à aborder des choses pas concrètes, sur des thématiques assez abstraites pour leur âge. Ils ont des réflexions décoiffantes.
Vous ne pensez pas que votre petite était capable de réfléchir sur des choses abstraites, c'est ça ?
C'est ça.
Le papa d'Emma.
Les enfants peuvent faire de la philo à tout âge.
C'est pas trop tôt.
Bah, c'est toujours mieux que de rester à la maison, regarder des écrans, quoi. Moi, ma fille, ça l'aide. Elle prend plus ses distances, elle est moins submergée par tout un tas de choses. Elle peut exprimer mieux ses émotions. Elle connaît plus de mots. C'est impressionnant.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi, l'amour ?
L'amour, c'est insurmontable. L'amour entre nos parents, un ami et un copain, c'est pas du tout la même chose. Je m'étais déjà disputée avec ma maman et du coup, j'ai fait des cauchemars la nuit. Alors que si me dispute avec un copain, roule ma poule, hein.
Est-ce qu'on peut se passer d'amour dans la vie ?
Non. Parce que l'amour, c'est dans le sang, c'est comme de la drogue. Et donc si jamais t'as pas l'amour, et ben t'as pas la vie.
Si t'as pas l'amour, t'as pas la vie. Très belle phrase. Je vous remercie tous beaucoup pour ce débat qui était super. On va aller dessiner ce que c'est qu'un ami, ok ?
J'aime beaucoup.
Et un grand merci Sandrine Houdin. Toutes les infos sur ces ateliers philo sur le site lacarabane.com. C'est impressionnant quand même, Julia Cagé, quand on les entend. Faudrait faire pareil pour les mécanismes fiscaux. Là, ils sont peut-être un petit peu petits, encore que c'est pas évident. Je renvoie Julia Cagé donc à votre dernier livre paru chez Fayard, Le prix de la démocratie. Et pour ceux qui auraient peur, parce que c'est un gros livre, je précise qu'il y a la version site internet également, Le prix de la démocratie. Version enrichie, interactive.
Oui, une version où, par exemple, vous pouvez regarder les différentes élections, combien les différents candidats dans votre circonscription électorale ont dépensé, le nombre de voix qu'ils ont obtenu. C'est très enrichissant, on voit plein de choses assez drôles et on voit aussi des phénomènes assez frappants de capture, on va dire, de la politique par l'argent privé. Par exemple, une des choses qui est vraiment frappante, c'est de voir que Alain Juppé, qui était Premier ministre en 1995 et candidat à la mairie de Bordeaux, reçoit beaucoup plus de dons privé que la limite des dépenses. Donc quand vous êtes un individu, quand vous êtes une entreprise et que vous financez un candidat au-delà de ce qu'il peut dépenser, on peut quand même interroger vos motivations. Moi, j'encourage tout le monde à aller voir le site. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut réconcilier les Français avec la démocratie et ça passe avant tout par une redéfinition de la démocratie comme un homme, une personne, une voix.
Et puis ça passe par des connaissances indispensables. Un immense merci Julia Cagé d'être venue ce soir sur France Inter.